J'aime pas les au revoir.
J'aime pas les au revoir.
Ah, les voyages aux rivages lointains, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins. Mon Dieu, les voyages, comme vous fûtes sage de nous donner ces images.
J'aime pas les au revoir.
Aventure.
Paysage.
Rue.
Place.
Bourlinguer.
Vagabondage.
Globe-trotteur.
Globe-trottage.
Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my...
Salut la compagnie, salut les amis et bienvenue dans J'aime pas les au revoir. De retour sur Radio Saint-Aff, c'est cool. Après le déluge de cette mi-septembre qui nous rappelle que que nos efforts à dompter les éléments ne sont qu'un paravent doré face au souffle déchaîné d'une nature sans contrainte. Il faut rappeler que non, la météo n'est pas un gentil petit toutou à qui l'on peut apprendre à faire pipi dans les WC canins, mais bien un Léviathan sans âge qui bâille face à notre enthousiasme pour le domestiquer. Bref, rien de grave au fond, juste une petite rincette à notre ego collectif. Sinon, une belle saison culturelle estivale vient de s'écouler, plein d'énergie, de nouveautés et d'enthousiasme. Bravo à tous pour ces belles soirées conviviales et fédératrices, lieux de rencontres et d'échanges. Ça, c'est pour mon ego. On est bien en Aveyron et surtout à l'écoute de Radio Saint-Afrique. Donc détendez-vous, mettez-vous à l'aise et on va décoller, partir, se laisser aller avec notre ami Jaco qui vient nous parler d'Afrique où sévit la fièvre Ebola. Comme s'il n'avait pas assez de misère, cela, il faut encore qu'il hérite de cette saloperie comme quoi la justice est bien une invention humaine. Enfin bref. Jaco, c'est l'homme de l'ombre, l'éminence grise, le conseiller, le cabinet d'études en développement, le mec, s'il ne met pas de costard ni de mocassin, il peut tous nous mettre sur la paille. Ce mec, il tient tous les livres de comptes et les dossiers confidentiels. Il a même été mis en examen à la classe, non? Non, je déconne, bon, c'est bon... C'est juste le comptable d'un paquet d'assos et c'est un boulot pas facile. Bon, on a inventé la calculette depuis, je sais, mais quand on fait les comptes de la caisse, il y en a toujours un pour dire qu'il en manque. Bref, moi je voudrais tirer mon chapeau à ce mec parce qu'il s'occupe des pauvres comme nous au lieu d'aller jouer au trader. Bon, je sais pas trop pourquoi, mais il doit avoir ses raisons ou une conscience, ou les deux peut-être. Salut Jaco, ça va ?
Ouais, salut tout le monde, merci.
Donc, tu viens nous parler d'Afrique, donc du Mali, je crois, où tu es parti donc, faire un premier voyage en 2004. Tu peux nous dire peut-être comment tu es parti là-bas ?
Oui, envie de bouger. Jamais vraiment beaucoup sorti de France jusqu'à là, jusqu'en 2004. Et là, vraiment envie de découvrir, d'aller voir ailleurs, quoi, de rencontrer.
D'accord, donc tu te barres direct en Afrique, quoi.
C'est ça, je devais aller logiquement en Éthiopie et puis ça n'a pas pu se faire. Et du coup, j'ai changé de direction, j'ai choisi quelque chose de plus simple, un pays qui parlait français déjà. Et j'en ai parlé un petit peu à droite à gauche, on m'a dit le Mali, ben pourquoi pas le Mali, vraiment un peu au hasard, quoi. Après, quand je me suis renseigné un peu sur le Mali, je me suis dit, ouais, mais c'est un pays intéressant. C'est un pays sympa parce que ce que dont je m'étais documenté, en fin de compte, c'était une plaque tournante. C'était et un pays qui est assez central en Afrique de l'Ouest, où il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis qui se rencontrent. Autant des ethnies du Sahara que des ethnies d'Afrique noire, j'ai dit tiens, un carrefour.
D'accord.
Ça me plaît.
Et tu es allé, en avion ?
J'étais en avion, ouais. Ouais.
D'accord. Pour cette première.
Ouais. Cette première, oui, je savais pas trop où j'allais. Je n'avais pas beaucoup de moyens. Ouais. Voilà. Mais c'était. J'ai pris. Pour l'Afrique, donc il m'a permis d'atterrir directement à Mopti, donc au cœur du Mali, quoi, sans passer par les grosses capitales, ça me plaisait bien.
D'accord, donc tu es arrivé direct Sahara, Mopti, c'est.
Voilà, ouais, porte du Sahara, ouais, porte du Sahara.
D'accord.
Et puis Afrique noire, choc, bonjour, oula, il y a des porcs, il y a des enfants dans la rue, il y a des choses, il y a des tas de choses qui.
Et je suis blanc, ils sont tous noirs.
Ouais, ils me sautent tous dessus, pourquoi moi? C'est un peu ça, ouais. C'était un peu le baptême du feu. Ouais,
ouais, d'accord. Et tu y es allé au départ comme ça, visiter
Balade, visiter, rencontre, quoi, oui, c'est ça, ouais. Ouais, complètement. Voir d'autres horizons, d'autres mondes, qu'est-ce qui se passe un peu par le monde, quoi.
D'accord. Et tu là-bas, tu bougeais en.
Eh ben donc j'étais sac à dos. Ouais. Donc je bougeais essentiellement en bus.
Ouais.
J'ai fait du stop aussi, ça, parce que le bus ne décollait pas, ne décollait toujours pas. Au bout de la fin de la journée, il décollait pas. Le lendemain, il décollait pas. Il était toujours pas plein. J'ai réussi à faire du stop et je suis parti avec un 4x4 donc sur un bori. Et le seul rhume que j'ai eu, c'est en descendant du 4x4 parce qu'il y avait la clim dedans et c'était horreur. J'ai chopé une crève grave. Bon, en fait, j'y arrive.
Ouais, quand ils ont la clim, ils en abusent.
Ah ouais, grave. Ouais. Il fait froid. Ouais. Les voitures.
T'avais oublié ton pull.
C'est ça. J'avais pas du tout prévu ça, non.
D'accord. Et du coup, tu te balades au Mali.
Voilà, j'avais prévu plus ou moins un petit voyage. Alors, c'est bien passé parce que de Mopti, j'ai cherché une pirogue et j'ai trouvé une pirogue d'un groupe français, en fin de compte, des éducateurs qui amenaient des jeunes qui, sortis de prison, enfin, ou de maisons de correction, et justement pour leur faire voir un peu le monde, qu'est-ce que c'était, ouais. Un peu la vie, donc ils partaient à Niafunke, et je me suis embarqué avec eux, c'était assez rigolo.
D'accord, Niafunke, c'est
Niafunke, c'est sur le bord du Niger, quand on prend donc, la pirogue à Mopti pour aller à Tombouctou, on passe. D'accord. Par Niafunke. Et Niafunke, c'est aussi une ville célèbre parce que c'est le berceau de Ali Farka Touré.
D'accord.
Donc, j'ai essayé de rencontrer Ali Farka Touré là-bas parce que tout le monde le connaissait, tout le monde allait le voir. Et puis, quand j'ai vu la file d'attente de blancs qu'il y avait pour rentrer dans sa maison, j'ai dit bon, on laisse tomber, c'est pas pour toi. J'ai été voir son fils et j'ai assisté à une répétition de musique avec son fils. C'était très, très, très agréable.
Donc ça, à Niafunke.
Ouais, à Niafunke. Ouais.
Donc là, on est déjà dans le Sahara, quoi.
Là, on est déjà dans le désert. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
Il y a enfin, du sable.
Porte du désert, il y a du sable, c'est la savane.
Ouais.
Mais la savane, c'est des jeunes acacias, quoi, et puis des genêts, et puis du sable, quoi. C'est pas encore les dunes, mais c'est non. Plat. C'est plat.
Ouais. Et après, t'es remonté
Et après, enfin, je suis descendu, là, parce que là, on descend le Niger, donc, Mopti, ouais, bien qu'il va vers le nord, parce qu'il fait une grande boucle, le Niger, là, cet endroit-là. Et après, j'étais à Tombouctou.
D'accord.
Tombouctou, ville mystique, ville d'où ça sort, où ça vient, est-ce que ça existe vraiment et tout. Ben oui, ça existe vraiment. Tombouctou, c'est au Mali. Après Tombouctou, il n'y a plus rien. C'est vraiment le désert, le gros désert, le grand désert. Et Tombouctou, c'est une ville, moi, je trouve assez hallucinante, quoi. C'est assez hallucinant parce que c'est un rythme très lent, c'est le rythme des chameaux, en fin de compte. Tout le monde vit tranquillement et tout le monde se cause, tout le monde fait des affaires, des petites affaires, des grosses affaires. Je me suis vraiment, vraiment senti à l'aise dans cette ville. Souvent, les touristes qui passent à Tombouctou restent 2-3 jours parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Pas très peu de choses à voir. Mis à part des belles mosquées et puis quelques musées, parce qu'il y a eu l'explorateur français qui me revient pas son nom, Caillé.
Théodore Monod.
Non, pas Théodore Monod. Je me souviens plus de son prénom. Caillé, qui est de la ville de Nevers, là, qui c'était le premier étranger qui a réussi à rentrer dans la ville de Tombouctou, qui n'était pas musulman et qui est ressorti vivant. Parce qu'il y en a plein qui sont rentrés, mais ils ne sont pas ressortis. Je parle d'un temps d'ici il y a quelques centaines d'années.
D'accord.
Et lui, il était rentré et ressorti. C'était bien débrouillé. Donc voilà, il y a quelques lieux comme ça qui sont, mais que tous les touristes font à la fois, et ouais. Que moi j'ai vu aussi en 7 ans, je crois que j'en ai vu la moitié, quoi, mais c'est bon. Moi c'est plutôt les gens, les ouais. commerces, les marchés qui m'intéressent.
Et quoi. C'est grand Tombouctou.
Et c'est une ville de 30-35 000 habitants, oui, quand même, oui.
D'accord, quand même... ça doit être grand comme Saint-Afrique.
Quoi. Ouais, Millau, je dirais, ouais. Millau, C'est coupé à l'américaine, c'est-à-dire que c'est des grandes rues et avenues qui sont carrées, quoi, très carrées. D'accord. C'est tous des quartiers comme ça. Et j'ai des photos vues de haut de Tombouctou, c'est assez hallucinant parce que c'est une ville en terre battue, ouais. que des maisons en terre battue, et qui est posée en plein milieu du désert, comme ça, tout quadrillé, vu de haut, ça fait vraiment un gros quadrillage, et puis tout autour, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien du tout. Et il y a le Niger qui est juste à 10 km de Tombouctou.
D'accord. Et il n'y a pas de route qui va à Tombouctou.
Il y a une piste qui va à Tombouctou. C'est-à-dire que quand on est à Mopti, on prend la route qui va sur Gao, donc c'est une route goudronnée. Ouais. Et à Douenza, on quitte la route goudronnée, il y a 200 km de piste.
Ouais.
Là, on prend un bateau, qui nous fait traverser le Niger, et on retrouve une piste de l'autre côté qui nous amène à Tombouctou. Donc il y a 5-6 heures de piste, quoi.
Ouais, et aujourd'hui, c'est toujours pas relié par une route.
Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. Alors, il y a un projet de route, justement, Pagnafunke, de l'autre côté. Mais que ça met du temps à
mettre ouais, en place. Quoi. Peut-être qu'aujourd'hui...
Aujourd'hui, ils ont d'autres soucis que de faire la route à Tombouctou. Ouais. Ouais.
Bon, et du coup, tu vas à Tombouctou, après tu te balades
À Tombouctou, je suis resté une dizaine de jours. J'ai rencontré... un guide là-bas, qui est devenu mon ami depuis, donc j'ai logé chez lui, il m'a pas trop pris la tête avec ses histoires de guide, enfin c'était bien, il m'a laissé vivre ma vie, quoi, et donc j'ai pu, parce que moi ce que j'aime bien justement, c'est pouvoir découvrir par moi-même, comme me balader dans les rues, rencontrer des gens, passer une après-midi à discuter, à prendre le thé, aller chez l'un, chez l'autre, dormir quelque part... Et donc j'ai pu faire ça tranquillement à mon rythme, et vraiment sans aucun souci, et ça c'était très 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 agréable. Et donc je suis resté 10 jours, et après je suis reparti, en fin de compte, je suis resté un mois et demi en 2004, donc au Mali, et j'ai fait que le Nord Mali, quoi. J'ai pas fait le Sud Mali, je connaissais pas à cette époque-là. Enfin j'ai pas eu le temps de le faire, parce que ça m'a pris beaucoup de temps de faire tout ça. Donc je suis redescendu sur Ambori, et là Ambori aussi, belle rencontre, très belle rencontre. En Boris, j'ai été en 4x4, donc à stop, là, c'est là où j'ai eu mon rhume.
D'accord.
Et quand je suis arrivé, j'ai pris le thé sur le bord de la route, et puis il y a un sans rail, donc c'est qui est une ethnie qui est assez majoritaire là-bas, à Ambori, qui vient vers moi, et puis qui commence à m'incendier, quoi, à m'engueuler, à me dire, ah, t'es français, tu viens faire quoi là? Tu viens faucher notre poignon, tu viens nous exploiter, tu viens... Ah, j'ai dit, oh là, oh là, attends, moi, j'arrive pas pour ça, et tout. Enfin, on s'est expliqué pendant une heure, on s'est engueulé pendant une heure, en disant, mais moi, ça, c'est mes ancêtres, tu me mets pas ça sur le dos, moi, je suis là, justement, pour te rencontrer, pour voir ce que tu fais, pour discuter ensemble, pour faire des choses ensemble, éventuellement. Et pendant une heure, on s'est bien accroché, puis au bout d'un moment, il me dit, bon, mais qu'est-ce que tu fais, tu vas où, là, maintenant? J'ai dit, je sais pas, j'arrive, j'ai mon sac, là. Il dit, bon, mais viens à la maison, on va manger le riz gras. Et je suis resté 10 jours chez lui, et on a refait toute son électricité dans son campement. C'était un campement, hein. Les campements, ce sont des lieux où on peut trouver à dormir et à manger.
Encore une petite auberge.
Une petite auberge, oui, c'est ça. Ils appellent ça les campements là-bas. C'est ouais, une petite auberge de jeunesse, quelque chose comme ça. On peut comparer ça à ça.
D'accord.
Avec plusieurs pioles et tout ça. Et voilà, je suis resté 10 jours chez lui, on a refait son élec, et depuis c'est devenu un super pote aussi. Enfin, je l'ai revu depuis, on a fait plein de choses ensemble.
D'accord, chouette rencontre.
Belle rencontre, oui.
Et du coup, parce que pour enchaîner, Plus tard, tu es retourné faire des projets humanitaires, enfin, des projets de plus grande envergure.
Oui, oui, surtout.
Avec des, c'est suite à ces rencontres, ces gens, c'est ça. Avec ça.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Autant le guide que j'ai trouvé à Tombouctou, c'est avec lui qu'on a monté le projet sur Tombouctou, donc du riz à Tombouctou, une école dans le désert. Et autant quand j'étais en Bori, j'ai rencontré donc les Lélés. Le gars avec qui je me suis engueulé pendant une heure, qui m'a présenté un esthète, et j'ai beaucoup sympathisé avec lui. C'est un gars vraiment chouette, c'est un peu. Et il m'a invité dans son école, et là j'ai vu les conditions d'éducation au Mali. On a, faut pas se plaindre ici, hein. Faut vraiment pas se plaindre. Enfin, non, faut pas dire comme ça, mais parce que, mais c'est des classes de 120 gamins, quoi.
Ouais, c'est une autre dimension.
C'est une autre dimension, et puis c'est des gamins qui sautent par la fenêtre, qui rentrent, qui enfin, c'est... Il y en a... Quand l'esthète fait réciter une leçon à un élève, il l'amène tout près du bureau, il tend l'oreille vers lui, et il dit, vas-y, récite-moi ta leçon, pour qu'il puisse l'entendre, quoi, parce que derrière, c'est...
C'est le bronc.
Ouais, c'est ça, ouais, bon, c'est un peu... Voilà, c'est pas facile, de toute façon, de mettre un peu de discipline à 120 gamins, quoi.
Ouais, j'imagine.
C'est très enfin, continuellement quoi. Si, quand je suis rentré à la classe, ils sont tous levés, bonjour messieurs, c'est impeccable. Mais...
Parce que c'est l'événement quoi.
Parce que, voilà,
sinon,
c'est ça,
dans le quotidien,
voilà, c'est. Oui, oui, bah oui, c'est vachement difficile quoi. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'ils n'avaient pas de stylo, tous, c'est qu'ils partageaient les cahiers en trois, ils coupaient les cahiers en trois pour que chacun ait une partie du cahier, hein, dans le sens de la largeur, ça faisait des petits carnets. Voilà, quoi, beaucoup de difficultés donc d'avoir du matériel correct pour faire.
Ouais, t'as terrible quoi, tu te retrouves face à
ah bah oui,
la réalité quoi, quand on parle.
Puis tu fais un parallèle un peu avec ce qui se passe en France, tu te dis, mais c'est pas possible avec toutes les fournitures qu'il y a en France, tous les stylos qu'on jette sur le bord de la route lors du Tour de France par exemple, tu vois, tu te dis, mais attends, et pourquoi eux ils en ont pas quoi, pour apprendre à écrire quoi.
Mais. Bon, on s'écoute un petit morceau, peut-être tu peux nous le présenter, et puis après on parlera de la suite de ces aventures.
Tout à fait, si tu veux, ouais. Là, j'ai choisi un petit morceau d'Ali Farka Touré avec Ray Cooder, qui est un bluesman américain. Et en fait, quand Ray Cooder a mis sa musique sur des chansons d'Ali Farka Touré, ça donne quelque chose de super sympa, si vous voulez.
Ide poko ide ke udo wana de po de ngoje.
De retour dans J'aime pas les au revoir, donc avec Jaco, on parle du Mali, d'Afrique de l'Ouest. Et on en était resté à Hombori, j'ai eu la chance de passer Hombori, et Jaco, est-ce que tu pourrais nous faire une petite carte postale, un peu nous décrire ce village, parce que c'est quand même...
Ouais, c'est un village en deux parties. Il y a le vieux village qui est complètement dans les rochers, parce que Hombori, quand même, c'est à côté de la plus haute montagne du Mali, qui fait 1100 mètres, qui est le mont Hombori, et qui est très, 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 très impressionnante. Enfin, moi, qui m'a très impressionné, toujours, dans le sens où elle est vraiment sur une plaine complètement aride, mais alors des kilomètres et des kilomètres carrés de... j'ai su au début du siècle des années 1900, c'était toute une forêt, tout ça. Ah oui. Le mont Hombori était entouré d'une forêt. Et là, maintenant, c'est le désert, mais vraiment, il y a encore des cadavres d'arbres, c'est tout, quoi. Quelques baobabs qui subsistent, mais il n'y a plus du tout de traces de forêt, ni quoi que ce soit. Et c'est un énorme rocher qui est planté là, en plein milieu, massif, c'est du granit, je crois, je sais pas,
ouais, c'est granit.
C'est énorme, et c'est vraiment très 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 impressionnant, quoi. On le voit de très loin quand on arrive dans Hombori, on le voit à plus de 5 km autour, et petit à petit on se rapproche de ce truc-là, et puis il y a la Mène Fatma qui est juste avant Hombori aussi, qui est une montagne complètement ébréchée où il y a carrément un pouce et semblant de quatre doigts là qui sortent.
Voilà, en fait, c'est assez... gros monolithe, quoi. C'est
gros
rochers.
Et puis qui est complètement tailladé, quoi. Donc c'est assez joli, assez impressionnant. Donc Hombori, le village, il est au pied de tout ce massif. C'est un massif, en fin de compte. Et donc il y a le vieux village qui est complètement dans les cailloux, complètement aride, qui est au-dessus, donc entre pas loin au pied de la montagne, quoi. Et puis il y a le nouveau village qui s'est construit donc au bord du goudron, quoi. Ouais. Au bord de la route, Bamako, Gao, Niger, quoi.
L'axe. La place du marché.
Voilà, avec le marché, tout ça. Alors ça c'est magnifique parce que c'est le mardi, je crois, le marché. Et le lundi soir, dans la nuit, toute la nuit du lundi soir. T'as des gens qui arrivent de partout, quoi, avec des chameaux, avec des ânes, avec t'as des camions qui arrivent aussi, qui transportent et qui viennent pour le marché. C'est tous les gens qui sont dans le désert et qui viennent. Les peuls viennent vendre leur lait. Après, il y a les Touaregs qui amènent les chameaux, qui amènent même des zébus, quoi, des bœufs, le bétail. Et tout ça, ça défile. En plus, là, donc mon ami Lélé, il est au bord du goudron.
Ouais.
Moi, j'avais en fin de compte, j'étais pas dans une chambre, j'étais sur une terrasse. Et j'étais vraiment au bord du goudron sur la terrasse. Et toute la nuit, ça n'a pas arrêté de défiler. Puis ça défile silencieusement, quoi. Ils viennent à pied, quoi, les gens, quoi. Donc, il y a juste les troupeaux qu'on entend. Et c'est assez magique, quoi. Ça arrive dans la nuit, paf, on voit débouler des Touaregs, un chameau, waouh, enfin bon.
Des
chèches de malades et tout. Bon, pour là-bas, ça paraît normal, mais moi, quand tu arrives au Mali, tu dis waouh, génial, j'y suis, quoi.
Ouais.
Là, j'y suis.
Les chèches, les sabres.
Les sabres, les lunettes de soleil, parce qu'ils ont des super lunettes de soleil. Donc, avec le chèche, on voit rien, juste les lunettes de soleil. Ça fait assez impressionnant. Et donc, Hombori, voilà, c'est un village qui s'étale sur tout le goudron. Où il y a les écoles, quelques boutiques, quelques restaurants, bon classique un peu comme tous les villages africains, quoi, au bord de route, quoi.
Ouais. Bon, des boutiques, c'est des petites échoppes.
C'est l'épicerie, voilà. Pour choper le sucre et le thé, quoi, en gros.
Et le restaurant, c'est une gamelle sur un petit feu. Hein.
C'est un petit restaurant. On n'a pas à faire la cuisine. Bon,
ils servent de son repas, mais ça reste une casserole.
Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est le riz qui bouge dedans.
Voilà. Et donc, tu nous as parlé de cet instit que tu as rencontré.
Oui, Amadou, ouais. Amadou Cissé.
Et tu peux me parler, donc, c'est quoi, c'est cette rencontre qui t'a motivé à donc, revenir et peut-être revenir avec quelque chose dans tes bagages, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai vu les conditions, tout ça, c'est vrai que ça m'a touché, beaucoup touché. Et j'ai dit, écoute, je ne sais pas si c'était mon premier voyage, je ne sais pas si je reviendrai au Mali, mais si un jour je reviens au Mali, je ramène des choses pour les gamins, parce que c'est évident que c'est vraiment très précaire, quoi. Et donc en rentrant, donc, ça c'était 2004, en 2005, j'ai lancé une action ici sur Sainte-Afrique qui s'appelle Offre un stylo de ta trousse. Donc j'ai été dans les écoles, j'ai sensibilisé les enfants en leur demandant de prendre dans leur trousse un stylo et de me les donner. Ils ont, je sais pas, une quinzaine de stylos dans leur trousse, c'est pas un problème. Et ça a super bien marché. J'ai récupéré deux sacs entiers, des gros sacs de sport de stylos. Je sais pas, il y en avait peut-être 2000 ou 2500 stylos.
Tu faisais du racket, quoi, à la sortie des
à la sortie des écoles. Mais c'était pour la bonne cause, je leur expliquais et tout. Hein. Et puis ça a super bien marché.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et puis, tant qu'à faire, sur la côte sensible des enfants, pour continuer ton idée, j'ai sensibilisé aussi les parents en leur disant, ben voilà, vous me donnez 5 euros. Et moi, je vais acheter des fournitures au Mali pour les écoles. Et j'ai récupéré 2250 euros, comme ça, en l'espace de 2 mois.
D'accord.
En mai-juin 2015.
Donc, fin d'année, toi, t'es parti.
Et donc, août 2006, je suis parti avec cet argent et mes deux sacs de sport plein de stylos. Et je suis arrivé à Ambori et j'ai dit, voilà, il y a tout ça, c'est pour vous, et j'ai de l'argent, et on va acheter donc des fournitures scolaires pour les écoles. Donc on a été à Mopti, dans les boutiques donc, de fournitures scolaires. On a passé la journée à acheter, parce que quand même 2250 euros, ça fait dans les 1 300 000 CFA, c'est énorme.
Il a...
Et donc, le boutiquier, le libraire, il a été voir ses collègues pour... il n'avait pas assez de stock, quoi.
Ah oui, vous avez dévalisé Mopti, quoi.
Disons qu'ils s'adressent... Là-bas, c'est super, parce que s'ils n'ont pas, ils disent, il n'y a pas de problème, on va trouver, quoi. Ils vont voir les collègues, ils s'entendent entre eux, et ils trouvent la marchandise, quoi.
Tant qu'il y a l'argent, on va trouver des solutions.
C'est ça, s'il y a l'argent, on va trouver la solution. C'est pas un problème. Et non, mais c'était sympa, on y restait, j'étais avec Nicole à cette époque-là, j'étais parti à deux donc, et on est resté toute une journée donc à aller chercher les fournitures à droite, à gauche, enfin, c'est eux qui y allaient, puis nous on répertoriait tout ça. On a chargé un gros 4x4, mais alors vraiment,
blindé.
Partout, blindé, intérieur, extérieur, il y avait des ardoises, des trousses de géométrie, il y avait des cahiers, il y avait des gommes, il y avait des crayons, il y avait des qu'est-ce qu'on a acheté, l'ardoisine aussi, c'est pour refaire les tableaux, les donc tableaux, la peinture, ouais. Je sais plus, on a acheté plein de trucs comme ça. Et après, arrivé là-bas, donc on a eu une réception officielle avec le préfet, le maire et tout ça et tout, les discours du directeur de l'école, l'instit, moi, enfin tout le monde, il a fallu que on dise notre petit mot. Il y a eu un petit michouis, donc tuer des chèvres. Non, c'était super sympa. Et en fin de compte, ils ont distribué toutes ces fournitures dans 10 écoles. En fin de compte, des écoles de brousse et l'école d'Amory.
D'accord. Et toi, tu avais monté une asso pour faire ça ou
non.
Comme ça, quoi.
Oui, oui, oui. Complètement individuel. Les gens m'ont fait confiance sur.
Tout, quoi.
Sur moi.
Ouais, ça se passe bien.
Mais oui, non, puis il n'y a pas de problème. Après, j'ai rendu des comptes et tout. Ouais. Tout était nickel, quoi.
Et là-bas, du coup, ils ont fait une réception parce que ça fait du bruit. Et
oui, c'est ça, oui.
Puis, voilà, c'était pas voulu de ta part que...
Ah non, c'est pas moi qui ai demandé.
Pas à ça, peut-être.
Moi, je savais pas, je m'en doutais un peu parce qu'ils aiment bien les réceptions. Ils aiment bien sortir les beaux boubous et manger la chèvre sur le feu. Mais non, j'avais rien demandé du tout. C'est eux qui ont organisé ça, quoi. C'est entre autres mon ami, l'instituteur, qui lui, justement, il voulait une reconnaissance. Et j'ai une reconnaissance, donc un papier signé de la mairie d'Ambori, du maire, comme quoi on faisait don de tout ça. C'est cool.
Ouais, c'est chouette.
Ouais, c'était bien. Oui, ça leur a permis d'avoir des fournitures pendant un an, toute l'année scolaire.
Pour 10 écoles.
Pour 10 écoles, ouais. Dans 9 écoles de brousse.
Ouais, ça vaut le coup de racketter des mômes. Bon, on n'a rien sans rien, quoi, donc bon.
Non, non, mais on ne suggère rien non plus.
Hein. Très bien, voilà. Et du coup, toi, tu... Quand tu y es retourné à ce moment-là, t'as bougé ou t'es resté plutôt
ouais,
sur
Hombori? Oui, on est resté pas mal, enfin un petit peu sur Hombori, puis après on a fait le pays de Gand. Ouais. On est revenu à Tombouctou aussi, d'abord. On est d'abord revenu à Tombouctou, donc voir mon ami Papa, là, donc, le guide que j'avais rencontré la première fois. On s'est baladé un peu à Tombouctou, on a fait une balade dans le désert. Ouais. Donc on a rencontré aussi un autre ami qui est venu aussi ici à Sainte-Afrique, qui s'appelle Tabala, qui est lui chamelier. Touareg, et on était à son village, et on est parti 3 jours dans le désert à Chamou. On a fait une petite balade. Alors ça, c'était marrant, parce qu'en fin de compte, on a fait une grande boucle, et à un moment donné, il y a eu une grosse tempête de sable qui est arrivée, puis on le voit arriver au loin, enfin, ça c'est impressionnant, quoi. T'as tout le ciel qui se bouge, tout l'horizon qui se bouge, ça devient gris, et tu vois que ça avance, ça avance. Et on était avec un Touareg, et donc l'ami qui m'accompagnait à cette époque-là, et moi, et à un moment donné, il dit, bon, on descend de Chameau, on se met sous des couvertures, il y a la tempête qui arrive, on se protège un peu, tout ça. Bon, tac, tac, on met tout ça. Et puis après, il me dit, bon, mais moi, je vais faire une course, je reviens. Et en fin de compte, on s'est retrouvés tous les deux en short, dans le désert. Il avait pris les sacs et tout, il était parti avec les chameaux. Et en fin de compte, on était à 500 mètres du village, quoi. Mais avec la boucle qu'on a fait, on ne savait pas du tout où on était, quoi. Et puis après, il est revenu nous chercher, et puis voilà, il nous a ramenés. En fin de compte, je ne sais pas très bien pourquoi il est parti. Je ne sais pas s'il a eu une mauvaise idée, puis qu'il a eu des regrets, ou si.
Ou du coup, il vous a laissé sous deux couvertures.
C'est ça, ouais, c'est ça.
Aïe, 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 le gros moment de solitude.
Mais pas longtemps, pas longtemps, en fin de compte. Donc je pense qu'il a dû repérer, tac, peut-être prendre, ouais, prendre ses repères avant que la tempête arrive, un truc comme ça. Il ne nous a pas expliqué. Mais c'est vrai que ça faisait bizarre, quoi, de se retrouver, mais on ne savait pas du tout où on était tout près du village où on était parti. Voilà, petite anecdote, mais c'était une belle balade quand
c'est
même.
Magique.
Ouais, c'est assez magique.
Mais du coup, Pays d'Ogon, donc c'est pas loin de Hombori, ça.
Et après, Pays d'Ogon, oui. Pays d'Ogon, j'ai fait en 2004 la première année, je l'ai refait en 2006. On a fait une belle balade sur Pays d'Ogon, c'est magique, ouais. C'est assez magique.
Mais t'y allais en 4x4, à pied ?
En transport commun,
ouais.
Pour arriver à
Bandiagara,
Sanga, exactement. Sanga, c'est vraiment au haut de la falaise. Ouais. Et après, c'est un trekking de 3-4 jours. On va se balader, descendre la falaise, passer des villages et puis remonter, quoi.
Donc, présente-nous un peu, enfin, le pays d'Ogon, peut-être les gens, ils ont déjà vu, je pense, des photos, mais en gros, il y a une falaise. Et...
C'est 300 km de falaise. Mm-hmm. Et c'est, en fin de compte, c'est toute la plaine qui se tourne vers le Burkina Faso, donc. Et ben oui, c'est tout un agglomérat de villages sur les 300 km, des gens qui vivent là et qui cultivent donc toute la plaine qui est devant eux, quoi. Et ils vivent de mil, quoi, essentiellement, quoi. Mmh. Ils plantent le mil tous les ans, voilà, c'est leur nourriture de base. Et les Dogons sont arrivés, alors je ne sais pas les dates, mais fait avant c'était les Télèmes qui étaient là, ils les ont chassés, c'est les Dogons qui sont mis en place. Mais les Dogons n'ont pas construit dans les villages des Télèmes, parce que les Télèmes c'était des villages troglodytes dans la falaise.
D'accord.
Et eux, ils se sont installés plus bas, c'est là où ils ont fait leur petit village avec leur grenier, avec les toits pointus là, qui font des photos magnifiques quand on visite ces villages, quoi. C'est assez magnifique. Et en fin de compte, chaque grenier correspond à une femme. C'est-à-dire qu'il y a des cours, des concessions, où c'est le mari qui a la concession, et s'il a la concession, il y a 4 greniers, c'est qu'il y a 4 femmes. C'est aussi simple que ça. Et chaque femme gère son stock de mil, et le mari doit remplir le grenier.
Se doit de le remplir, voilà, et s'il ne remplit pas, il perd ses femmes.
Et c'est ça, on voit rien. On voit la concession à côté.
Et oui, on en a.
Donc, ces petits greniers qu'on voit chez Chapeau Pointu, là, ça appartient à une femme, quoi. Celle qui gère pour sa famille. Après, j'imagine qu'ils doivent s'arranger entre elles ou pas, je sais pas, suivant les affinités ou pas.
D'accord. On s'écoute un petit morceau et puis on reviendra.
Oui, si tu veux. Alors, après le morceau suivant de tête, je crois que c'est du Touareg, c'est ça. C'est Terakaf, c'est un groupe Touareg, un peu comme Tinariwen, mais bien connu là-bas aussi connu que Tinariwen, mais qui font moins de tournées en France. Ils ont fait aussi des tournées européennes. Voilà, c'est de la musique touareg, c'est les touaregs qui ont lâché les kalachnikovs pour prendre une guitare électrique et puis qui disent ce qu'ils ont à dire. Très
bien. Tere warta djunche. Thank you.
Yes, de retour à Radio Saint-Taf pour J'aime pas les au revoir avec Jaco. On est au Mali. Et donc, Jaco avait ramené des sacs pleins de stylos. Et ça a donné des idées à son pote papa qui était à Tombouctou.
Oui, tout à fait. Ben oui, il est venu me voir en me disant, mais moi aussi j'ai un projet, est-ce que tu peux le financer ? Puis c'était un projet intéressant parce que ça permettait de réhabiliter 20 hectares de terre et en cultivant du riz. Et la vente de ce riz pouvait financer une école pour des Touaregs. Et ce qui était intéressant, c'est que cette culture du riz était faite par des Sanraï, donc qui est une ethnie qui est aussi à Tombouctou. Et ça finançait une école pour des Touaregs, une autre ethnie qui n'a rien à voir l'une avec l'autre, quoi. Vraiment rien à voir. D'accord. Et alors, du coup, ça m'intéresse, ça m'a vachement interpellé, quoi. Ça m'a bien intéressé de dire, tiens, ils sont capables de ça, de solidarité entre plusieurs ethnies. Et donc, on y a réfléchi un petit peu. Papa est venu me voir ici, à Sainte-Afrique, au mois de mai 2007, donc. Et il m'a demandé, j'aimerais voir l'autorité locale, qu'il m'a dit. J'ai dit, ah bon, tu veux voir le maire de Sainte-Afrique ? Il me dit, ouais, j'aimerais bien le voir et tout, le saluer. Ouais, il aimerait le saluer. J'ai dit, bon, mais banco, on va prendre rendez-vous avec Alain Fauconnier, puis tu vas le saluer. Ouais. Et en fin de compte, à la suite de cette entrevue, que Alain donc, a bien accepté de nous rencontrer, gentiment, et puis à la suite de cette entrevue avec Alain Fauconnier, lui nous a proposé de trouver éventuellement du financement pour ce projet, donc de riz et d'école dans le désert. Et on a obtenu ces financements grâce à la région Midi-Pyrénées, et Alain Fauconnier donc, bien sûr. Et au mois de novembre, donc, je suis descendu en véhicule, en 4x4, avec un Toyota. D'accord. Pour faire, vous, oui.
C'est la première.
Là, c'est la première descente en véhicule. Là. Oui, j'en ai fait deux. Et donc, pour aller voir le projet sur place, qui était prêt à partir, qui étaient les partenaires sur place, comment on pouvait travailler, sur quel lieu, et tout ça, si vraiment les Touaregs étaient...
C'était bien crédible.
Voilà, et c'était crédible ou pas, quoi. Voilà. Et donc, on est descendu, je suis descendu avec mon fils, avec Nino, et puis sa copine du moment, avec Flore. Et voilà, on est descendu en 17 jours, donc assez rapidement, même assez rapidement, c'est clair.
On donc a passé... par l'autoroute, bien évidemment.
Voilà, l'autoroute Maroc, sud du Maroc et Mauritanie. Et on s'est fait un super trip parce qu'à Mauritanie, donc, il y a ce qu'on appelle la route de l'espoir. Ouais. C'est la route qui va complètement à l'est, là, qui va donc vers le Sahara. Et au bout de la route de l'espoir, en Mauritanie, ça s'arrête, c'est que des pistes, après ça va dans le Sahara, et nous on a pris une piste pour rejoindre directement Tombouctou. Donc on s'est fait, je ne me souviens plus du nom du dernier village en Mauritanie.
Et Nema, Nioro.
Nioro c'est au Mali déjà.
Ouais, Nioro
c'est... Mais Nema, c'est plus loin que Nema. Nema c'est quand tu bifurques justement pour aller à Nioro. Mais
ouais, tu descends sur Nioro pour rejoindre Bamako.
Voilà, c'est ça. Alors donc, que là, on a coupé tout droit et à la boussole.
À la
boussole. Et parce que plus de cartes, plus rien, mais il n'y avait qu'une piste. Enfin, j'avais des cartes d'état-major, j'avais trouvé sur Internet des cartes d'état-major où ils disaient que donc il y avait des pistes qui pouvaient rejoindre Tombouctou.
Pas de guide,
non. Une boussole. Et à un moment donné, on s'est arrêté dans un village, magnifique village fait que de branches. En plein milieu du désert, et il y avait des gens qui vivaient là. Et quand on leur a demandé, mais alors vous êtes malien, vous êtes mauritanien, eh bien ils ne savaient pas. Ils s'en foutaient. C'est pas leur problème. Ils étaient là, j'ai dit, mais alors on est au Mali, on est Mauritanie, ils ne savaient pas. Et après, quand je leur ai demandé, mais pour aller donc direction de Tombouctou, ils me disaient, ah, mais oui, c'est la piste là-bas au fond. Et tu vas tout droit. On a pris la piste, et puis, on est arrivé. On est arrivé à Tombouctou.
Combien ? Trois jours ? De pistes
Non, c'était moins que ça. Ouais, non, la piste était moins que ça, parce qu'après, on n'est pas arrivé directement à Tombouctou, quoi. La piste était moins que ça, c'était... On a passé une nuit dans le désert, deux jours.
D'accord.
Deux jours de piste, ouais.
C'était du sable.
Ouais, piste de sable, ouais, c'est ça. Puis après, à un moment donné, on a retrouvé la latérite, et voilà, quoi, c'était gagné, quoi. Enfin, on était dans la civilisation, à nouveau, quoi.
C'est bon, la tôle ondulée, c'est reparti.
Voilà, un peu de tôle ondulée, oui, il faut se remettre dans le bain.
faire vibrer tout ça, quoi. Et donc, ce projet, ça tenait la route
et mais ce projet, oui, il tenait la route. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, oui, il tenait la route. Après, c'est vrai que quand on rencontre, quand des Blancs rencontrent des Africains, que les Africains ont un projet, que le Blanc leur dise, bon, on va étudier pour voir si on peut vous le financer. Bah, ils vont vous dire, ah oui, mais ça va marcher, il n'y a pas de problème, si, on va faire et tout, mais si, ça marche, ça, il n'y a pas de problème. Donc, il y avait bien des hectares qui étaient en friche, ouais. qui avaient été financés il y a quelques années par un organisme international et qui était tombé à l'eau, quoi. Enfin, ouais. Ça n'avait pas donné suite, ça faisait 5 ans qu'ils étaient en friche, et là, il y avait quoi, 110 hectares, c'était une plaine de 110 hectares, ouais. Et on a pris, nous, 20 hectares sur lesquels on a refait les canaux d'irrigation, acheté un motopompe, repasser donc un labour là-dessus et replanter du riz, quoi.
Et il a un labour tracteur ou...
Un labour tracteur, oui. Oui, d'accord. Oui, parce qu'il y avait un tracteur sur Tombouctou qui était loué, qui faisait les labours à l'époque, quoi. Ah, oui. À la bonne époque. Et on a trouvé donc, c'est les partenaires, du coup, il y a une association à Tombouctou qui s'est créée pour gérer ce projet, et c'est les partenaires, donc ces partenaires-là, qui ont trouvé un village qui était bien d'accord pour faire ce projet, quoi.
Et eux, quels intérêts ils avaient, donc, ces gens de cultiver le riz ?
Eh bien, eux, ils fournissaient la main-d'œuvre, c'est tout. Nous, on fournissait tout ce qui était gasoil, semences, voilà, tout ça. Intrant, c'était en agroécologie, donc on a fait du compost. Et donc ils fournissaient la main d'œuvre, ils avaient la moitié récolte pour eux.
D'accord.
Et l'autre moitié, on la vendait et ça finançait l'école. Et ça tenait la route. Ouais. Voilà. Donc eux, ils étaient intéressés. Ça leur faisait, juste avec la main d'œuvre, ça leur faisait du riz qui rentrait, en plus. Et la vente a vraiment permis de faire fonctionner une école, pas de la financer, mais de la faire fonctionner. C'est-à-dire payer un institut, ouais. Payer les fournitures scolaires, payer une cantine, une cantinière, voilà.
Parce que ça existait pas. Pour les Touaregs dans le désert, il n'y avait rien qui était mis en place.
Non, dans le désert, non. Enfin, après, ou très rarement. Si, du côté de Kidal, tout ça, un peu, parce que mais c'est pareil, c'est les ONG qui ont mis ça en place. Ouais. Quoi. Mais de même, non, il n'y a pas. Les Touaregs, quand il y a eu la décolonisation... les Touaregs n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école quand justement le Mali donc est devenu autonome, indépendant. Ouais. Il a mis en place donc un système d'éducation national. Et les Touaregs, rebelles comme ils sont dans le sang, ouais, n'ont pas voulu envoyer leurs enfants à l'école pour pas être entre guillemets contaminés. Enfin, je veux dire pour qu'ils restent vraiment dans la tradition de Touareg et qu'ils soient pas mélangés avec d'autres. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé les enfants des esclaves qu'ils avaient.
À l'école.
À l'école. La plus grosse bêtise qu'ils ont fait, parce qu'en fin de compte, c'est les enfants des esclaves qui sont devenus après ministres, entrepreneurs et tout ça, parce qu'ils étaient à l'école. Et les Touaregs, ils se retrouvent maintenant dans une situation très difficile, parce qu'ils n'ont pas placés,
quoi.
Ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas d'instruction.
Oui, enfin, à l'époque, ils n'ont pas accès, du coup, maintenant, les rennes, c'est plus eux qui les tiennent. Et...
C'est ça, ouais. Enfin, bon, là, ils les reprennent un peu, là. J'essaie de les reprendre un peu, là. Mais bon, ça fait pas ça mal.
Et du coup, ça, toi, t'es arrivé là-bas, hop, t'as vu que ça tenait la route. Vous avez commencé les travaux
ou... Ouais, enfin, disons que courant 2007, j'ai monté une association ici, Graines d'école, où j'ai embarqué pas mal de gens dans mon histoire. Et ça a bien marché, on était une quinzaine, en fin de compte. Et on s'est retrouvés de mémoire comme ça, on s'est retrouvés 6 ou 7 là-bas, en fin de compte.
Des
Saint-Africains.
D'accord.
En même temps que je suis descendu, moi, j'en ai récupéré donc à Mopti à l'aéroport avec le 4x4. Et puis après, il y en a d'autres qui sont arrivés par leur propre moyen. Enfin, on est allé chercher aussi à l'aéroport plus tard. Donc on s'est retrouvé où 5 ? Non, 5 on devait être. Monica, Michel, Vincent. Ouais, on s'est retrouvé à 5 de Saint-Afrique pour étudier le projet. Et d'accord. Donc c'est à 5 qu'on a pris les décisions de savoir si c'était faisable ou pas, puis rencontrer les gens. On s'est beaucoup baladé. C'était super parce que du coup, on a été dans tous les campements Touareg en plein Sahara. Et ben voilà, quand on passait la journée là-bas, on a passé des nuits même dans les campements. Et puis les gens nous ont accueillis, enfin on était accueillis par les gens. C'était un rapport humain assez fantastique, quoi. Je veux dire, il y a eu des soirées, on a eu droit à des chants, des danses. Ouais, ils étaient contents.
Ouais, c'est pas du folklore, quoi.
C'était pas du folklore, oui, voilà. C'était bien qu'il y a des fois, ils nous ont fait du folklore aussi.
Quand même, mais ouais. Attends.
Non, mais là, à l'improviste comme ça, c'est pas du folklore. Oui, hein. Mais non. Et là, c'est chaud, quoi. C'est bon, quoi. C'est sympa à vivre, quoi.
Et du coup, toi, tu repars. Vous êtes resté un peu.
Voilà, on est resté 2 mois sur place.
Ouais.
Et après, ben, je repars ici en France. Et puis je monte des dossiers, et on a tout réussi à récupérer sur ce projet-là 90 000 euros quand même en 3 ans. Ouais. De l'aménagement des terres agricoles jusqu'à la construction, la finition de la construction de l'école. Quoi.
Parce que du coup, vous êtes. Tu finances. Vous occupiez du riz. Le riz, lui, il allait juste permettre le fonctionnement de l'école pour qu'une fois que vous soyez parti, ce soit autonome, tout ça.
Voilà, quoi. C'est ça. C'est
mais
ça,
la construction,
vous voilà, l'avez la pris construction, on l'a pris en charge, l'investissement, ouais. Tous les achats, motopompes, des brouettes, des dabas, des arrosoirs, tout ça, on a acheté. Ouais. Hein, c'est-à-dire tout l'investissement, on va dire, on l'a acheté. Et on a acheté la première année de fonctionnement en gasoil, semences. Ouais. Essentiellement.
Pour lancer la
machine. Pour lancer la machine. Et après, on avait calculé que la vente du riz, il y a une partie qui repartait pour la semence de l'année suivante et une partie qui passait pour l'école, quoi. Et une partie qui était pour les agriculteurs. Et ça a tourné.
Ça a tourné combien de temps ?
Ça a tourné jusqu'en 2012. Où après ça a foiré complètement au Mali, là, où le nord a été.
Ouais, c'est parti en sucette, voilà, mais c'était pas parce que.
Alors après, si le projet de riz, il a été. Les rendements n'étaient pas ce qui était prévu, les composts ne se faisaient pas vraiment. C'était pas facile parce qu'il fallait ramasser de la bouse de vache un peu partout dans le désert pour la ramener, il fallait faire la paille de riz pour. La faire composter, c'est beaucoup de travail, ça. faut pousser les brouettes et tout. Enfin, il n'y a pas eu les rendements au début, c'est pas grave. Après, les rendements ont augmenté un peu. Et puis après, les agriculteurs, ils étaient plus gourmands, ils voulaient plus, ils voulaient être payés. Mmh. Enfin, et là, c'est donc du coup, voilà. Donc 2010, ça a été limite 2011, ça s'est un petit peu effrité cette histoire-là parce que les agriculteurs marchaient plus vraiment dans la combine comme on avait prévu au début. Ouais. 2012, il y a eu branlement de combat, tout ça. Et en 2013, là, ils ont eu des aides, des grosses aides de l'Europe pour reconstruire justement le Normandie. Et ils ont redémarré le projet RIE. Donc.
D'accord.
Ouais. Avec donc des aides de l'Europe. Encore. Et ça tient encore. Et ce que je trouve très sympathique, c'est que, en fin de compte, c'est eux qui ont fait la démarche de demander à l'Europe. Bon, c'était facile, l'Europe donnait beaucoup parce que la région en avait besoin. Mais enfin, ils ont dû être obligés de faire un dossier eux-mêmes, sans nous. Et ils se sont adressés donc aux administrations maliennes. C'est plus nous qui allons aux administrations maliennes, c'est eux qui l'ont fait. Et c'est eux qui ont géré le budget. Quoi. Donc, ça, c'est, alors qu'avant, on était derrière. Quoi. Et là, alors ils s'en sortent tant bien que mal, mais ils se débrouillent tout seuls, quoi. Quelque part, l'objectif, mieux, ouais. L'objectif, c'est ça. Nous, au bout de 3 ans, on se casse et vous démerdez tout seul, quoi. Il a fallu 5 ans, et puis il a fallu malheureusement des événements, difficiles sur place. Mais
et toi, t'as des nouvelles de ces gens ?
Bien sûr, régulièrement. Eh ben oui, le riz, ça va. Alors, le problème, c'est que l'école n'a pas redémarré, parce que les Touaregs ne sont pas rentrés.
Parce qu'eux, ils sont dispersés.
Ils sont dispersés entre le Burkina et puis la Mauritanie. Et puis, en plus, être Touareg en ce moment, au Normalie, c'est difficile. Parce qu'on ne sait jamais si tu es de bon Touareg ou mauvais Touareg. Enfin, tu vois, ils ont une situation très, 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 très compliquée. Et donc ils ne sont pas rentrés, ils attendent vraiment que ça se calme pour rentrer, donc l'école elle est désertée, il n'y a plus personne. Ouais. Je sais que les tables et les bancs qu'on avait financés ont été brûlés, pour besoin de bois, hein, je pense, c'est pas du saccage, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je sais que l'école, il faudrait la revoir un petit peu, parce qu'avec les pluies qu'il y a eu et tout ça, elle s'est un petit peu dégradée. Donc, je pense que d'ici un an ou deux, je reviendrai là-bas et j'irai voir l'école. Et puis, s'il y a quelque chose à faire, je ne sais pas.
Ça peut me faire un petit chantier, quoi. Un petit chantier collectif. Nickel.
À Tombouctou, pourquoi pas ?
Eh bien, ouais. On s'écoute un petit morceau et puis on conclura.
Ouais, DJ Bridgewater, c'est ça.
Yes, yeah, de retour à Radio Saint-Af, on est au Mali avec Jaco et du coup, bon, là je pense que l'émission va toucher à sa fin, on a quelques minutes encore, donc peut-être parler un peu de l'actualité. On voit qu'au Mali, c'est compliqué, on comprend pas très bien. Nous qui sommes pas allés ou que ça fait longtemps, enfin, tu peux nous dire un peu
qu'est-ce qui se passe, Bah, disons que si on veut vraiment comprendre ce qui se passe au Mali en ce moment, il faut revenir à l'origine, c'est-à-dire à la décolonisation. Où, comme tous les pays d'Afrique, de toute façon, la décolonisation s'est faite en fonction d'intérêts et non de bon sens par rapport aux populations qui y vivent. Et on a assemblé, en fin de compte, ça se retrouve partout, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, partout. On a mis ensemble des ethnies qui n'avaient rien à voir ensemble, quoi. Donc c'est compliqué. Et je pense que le Mali, c'est ça aussi. C'est-à-dire que les Touaregs et, pour un terme générique global, les Bambara, c'est-à-dire plutôt les Noirs d'Afrique, ouais. Hein, les Touaregs étant plus musulmans, quoi, plus, enfin pas musulmans, pardon, arabisants, pardon, ouais. Arabisants, c'est ce que je voulais dire.
Ils sont plus clairs de peau.
Voilà, plus clairs de peau et tout ça, c'est pas du tout la même culture. Et traditionnellement, ils sont toujours entendus, bien que, enfin entendus, entre guillemets, parce que les radias, oui. Les radias Touareg, on sait ce que c'est, et c'est quand même des belliqueux, quand même, les Touaregs. Mais en fait, ils arrivaient à commercer ensemble. C'est assez marrant parce que pour faire du commerce, en fin de compte, c'est les Maliens donc d'Afrique noire qui amenaient l'or sur le bord du Niger le soir et qui repartaient. Pendant la nuit, les Touaregs amenaient les épices, le sel et tout ça qu'ils récupéraient dans le Sahara, qui prenaient l'or et le lendemain, c'est comme ça qu'ils faisaient les transactions.
Donc ils se croisaient pas, quoi.
Donc ils se voyaient pas, quoi. Mais c'était conclu, c'était correct et c'était en bonne entente, quoi. Ça marchait comme ça, quoi. Ça marchait très bien. Mais ils se croisaient pas, donc ça veut dire que c'était des peuples qui, bon, ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble, quoi. Ouais. Nous, Français, avons décidé qu'ils vivraient ensemble, donc forcément, depuis les années 60, il y a des revendications et des rébellions Touareg, parce qu'ils ne comprennent pas, ce n'est pas leur culture, c'est ce qu'on leur impose, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ouais. vivent. Et...
Parce qu'en gros, le Mali, il y a le sud Mali, donc qui est en Afrique noire,
c'est ça, hein,
ouais. Et où il y a les institutions, où il y a les dirigeants,
c'est ça,
et il y a le nord Mali, où donc c'est le Sahara, c'est le désert, c'est tout ce qui est au nord du Niger, en gros.
Oui.
Mmh. Et qui, lui, est des territoires Touareg et qui sont donc soumis aux règles
de Bamako. Et c'est vrai que quand on regarde le développement du pays depuis les années 60, la région autant de Bamako que de Sikasso, enfin toutes les régions du sud sont développées, très développées, les routes sont développées, il y a des routes secondaires. Il n'y a qu'une seule route qui va au nord, quoi, par exemple. Et puis, il faut voir l'état de la route, quoi. Enfin, tu vois la route, déjà. Et puis, c'est vrai que les administrations ne suivent pas au nord Mali, qu'il n'y a pas de l'eau partout. Moi, j'ai vu, justement, dans la région où on a monté le projet, des villages où il y avait un forage. L'État avait fait un forage, et point barre, il y a un tuyau, quoi. Maintenant, il faut la pompe pour aller chercher l'eau, quoi. Mais ça reviendra, c'est le plan suivant, quoi. Ouais. Et ça fait 2-3 ans qu'ils attendent la pompe, quoi. Alors que l'eau, je veux dire, s'il y a bien un endroit sur la planète où l'eau est importante, même plus que dans le sud, enfin, il n'y a pas à comparer, mais je veux dire, voilà. Bon, voilà un peu des anecdotes qui font que ben, les Touaregs se sentent mal et qu'ils se disent, mais nous, on veut gérer notre pays, on veut gérer notre région, quoi.
Ouais.
À notre façon, et, parce qu'il y a de la richesse, hein, il y a du pétrole, il y a de l'uranium, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau sous le Sahara. Mais nous, Occidentaux, on préfère gérer avec Bamako qu'avec les Touaregs.
Parce donc, qu'on a l'habitude. Et
que... Parce que voilà, parce qu'on les a mis en place. Parce que Bamako, c'est nous qui les avons mis en place, quand même. ATT, c'était bien, là. D'ailleurs, depuis qu'il s'est fait virer, là, il y a 2 ans, on n'entend plus parler de lui, il est parti sans rien dire, donc c'est qu'il n'était pas clair, quand même, quoi. Ouais. Et du coup, ça ne nous arrangeait pas, quoi. Et eux, ils se rendent bien compte de ça, ils veulent, bon, créer la Zawad... qui est un territoire autonome, quoi.
D'accord, c'est avoir l'autonomie du Nord Mali et gérer leurs affaires eux-mêmes.
Voilà, c'est ça. Enfin, c'est ça. Puis gérer en accord, ils sont prêts à gérer en accord avec Bamako, mais qu'eux, ils aient leur mot à dire. Ouais. Qu'eux, ils aient un droit de regard sur ce qui se passe et qu'ils puissent revendiquer la part du gâteau comme tout le monde, quoi. Enfin, comme ceux du Sud, quoi.
Mais qu'on se trompe pas, quand ça a pété au Mali dernièrement, il n'y a pas très longtemps.
Ouais, 2012. Oui.
Qu'est-ce que c'était pas c'est quoi, c'est les Touaregs qui sont allés buter tout le monde et foutre la charrière en place, c'était quand même pas
non,
ça
c'est pas ça, hein, non c'est pas ça l'histoire. Disons que c'est la mort de Kadhafi en Libye. Ouais. Kadhafi employait beaucoup de mercenaires Touaregs. Ouais. La mort de Kadhafi a fait que les mercenaires sont rentrés au Mali. Chargés d'armes françaises, entre autres, ouais. Pour pas mal d'ailleurs, d'un demi-missile, sol-sol, je sais plus quoi, tout ça, ouais. Tout ça, là, enfin, des super sophistiqués, quoi.
Et ils sont bon matos, quoi.
Du bon matos, quoi, tu vois, que tu peux. Et l'armée malienne en face, elle était. Elle avait rien comme matos, quoi. À Kidal, à Gao et à Tombouctou, c'est les trois garnisons de l'armée malienne, il n'y avait rien du tout. Et
ouais, mais en gros, c'est des mercenaires qui sont débarqués de Syrie, des gens qui rentraient aussi. Bah
alors, ouais, c'est plus que ça, c'est un mouvement quand même. Ouais. Le MNLA, c'est le mouvement Touareg qui a décidé de reprendre le Nord grâce, parce qu'ils ont vu cet apport donc de militaires. Voilà, il y avait une circonstance, il y avait une occasion quoi, pour eux.
D'accord.
Mais ils voulaient simplement chasser l'armée malienne et prendre et faire que la région devienne autonome, quoi.
D'accord.
Là-dessus, ils sont fait dépasser par des djihadistes qui sont venus de l'Iran, de l'Irak, qui sont venus d'ailleurs, et des mouvements qui étaient sous-jacents en Algérie, embryonnaires en Algérie. Il y a beaucoup de trafic de drogue dans le désert, il y a des avions qui atterrissent dans le désert, qui viennent de Colombie, et après ils mettent le feu à l'avion, et ils récupèrent toute la marchandise, et il y a un gros trafic qui après repart vers l'Europe, donc il y avait du poignon aussi. Et du coup ils se sont fait dépasser par tous ces gens-là, qui ont voulu imposer la charia et compagnie, et là ils se sont fait complètement dépasser. Et c'est pour ça que quand la force française est venue au Mali, en fait, quand ils se sont servis des Touaregs pour chasser les djihadistes, et les Touaregs ont chassé les djihadistes. Ils sont alliés avec la France, et ça. Et Bamako n'a pas apprécié du tout, que la France... Enfin, voilà. Et maintenant, on en est à ce que... Il commence à y avoir... Là, je crois que c'était hier ou avant-hier, il y avait une réunion à Bruxelles sur la nouvelle répartition du monde, et les Touaregs étaient invités, Bamako était furax, mais était invité pour pouvoir éventuellement imaginer une région d'Azawad.
Une issue, quoi.
D'Azawad, ouais.
D'accord. Eh bien, super, on leur souhaite.
Et quelque part, je crois que ça pourrait
bon, j'espère que Bamako nous écoute pas trop.
Si, mais même Bamako, il commence à se poser des questions.
Ben oui, il y a un moment, bon, faut arrêter. Hein. Et il va être temps de faire nos au revoir, même si on n'aime pas trop ça. Et peut-être tu veux passer un petit coucou aux copains là-bas, peut-être qu'ils nous écoutent.
Ah ben Lilélé, Amadou, papa, Tavala, et plein d'autres, oui bien sûr, s'ils nous écoutent, on est avec vous et on a été ensemble, on le saura encore.
Et on y retournera.
Et on y retournera, oui, c'est clair, c'est sûr.
Allez, ciao à tous, à bientôt.
Merci à toi, Mou, à bientôt.